15h, 16h,
son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours, de 15h à 16h, tous les jours. Il est à mes côtés pour répondre à vos interrogations médicales. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la parentalité positive, au coaching familial. Dans cette émission, nous allons vous aider à mieux gérer les petits et gros conflits avec vos enfants. Quels outils ou astuces proposer lorsque votre enfant ne veut pas se lever, s'habiller, arrêter la console? Comment aussi leur apprendre à gérer les rivalités dans la fratrie ou encore à nous laisser nous reposer un peu, nous, parents. On fera le point avec nos deux invités du jour. Nous recevrons Aurélie Calais et Clémence Promsy. Elles sont psychologues et fondatrices du cabinet Kids and Family. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la lumière bleue, mais pas celle qui vient de nos écrans, celle qui est diffusée naturellement à la montagne. Il nous dira comment nous en protéger. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va s'intéresser à un examen que l'on peut être amené à passer lors d'une grossesse. On vous dira tout sur l'amniocentèse. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des éjaculations nocturnes qui peuvent perturber les nuits de certains hommes. Elle nous expliquera pourquoi.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Zach.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voici ma question. Ma femme est enceinte et nous avons un chat. Et on voulait juste savoir s'il fallait faire attention parce qu'on a entendu parler des maladies comme la grippe du chat ou quelque chose comme ça. Voilà, on se demandait juste.
Jimmy, alors des femmes enceintes qui ont des chats, il y en a évidemment beaucoup. Et pas question de se débarrasser de son animal de compagnie parce qu'on atteint un bébé. Mais il y a quand même quelques précautions à prendre qu'il faudrait rappeler. Hein.
Exactement. Le principal risque lorsqu'on a un chat et qu'on est enceinte, c'est d'avoir ce qu'on appelle la toxoplasmose. La toxoplasmose n'est pas transmise que par le chat. D'autres animaux peuvent aussi la porter. La toxoplasmose chez l'adulte sain, qui est immunocompétent, qui n'a pas de problème immunitaire, ne pose quasiment aucun problème. On ne s'en rend quasiment pas compte.
Pas si inaperçu en général.
Voilà, on a ce qui ressemble à un truc qui ressemble à une grippe un peu. Et puis on est souvent immunisé. Il arrive que lorsqu'on n'est pas immunisé, si on l'attrape durant la grossesse, il y a un risque pour le bébé à naître. Et ce risque, il dépend de deux choses. Du terme. Si, au tout début de la grossesse, il y a le placenta qui n'est pas très développé, il y a une micro-circulation. Donc le risque d'attraper la toxoplasmose, il est faible. Mais si vous l'attrapez en début de grossesse, les conséquences sont dramatiques, car c'est un peu l'étape clé, c'est la formation des organes. Et donc là, on sait qu'il y a de nombreuses malformations qui peuvent avoir lieu, ou au contraire, aboutir à une fausse couche. Et puis, plus on avance dans le terme de la grossesse, moins on a de chances de l'attraper. Mais par contre, si on l'attrape, il y a un risque à ce moment-là on a plus de risque de l'attraper, mais les conséquences sont moins graves.
En général, ouais.
En revanche, ils sont quand même compliqués avec la toxicité oculaire. Il peut y avoir des cécités qui apparaissent si vous avez vu la toxoplasmose lorsque vous êtes enceinte.
Bon, donc des risques quand même à prendre effectivement au sérieux. Mais est-ce que tous les chats, même ceux qui vivent en appartement, qui ne sortent pas beaucoup, finalement, ils sont vecteurs de cette maladie?
Alors si en principe, votre chat reste à la maison, ne sort absolument pas et qu'il ne consomme pas de viande crue et que vraiment il ne part pas dans le jardin, le risque est plutôt faible, voire inexistant. Si par contre, il a tendance à aller à droite à gauche, à ce moment-là, il risque d'être porteur du parasite.
Et ce risque, finalement, on le prend surtout si on approche on a souvent entendu quand on est enceinte, des selles du chat, de la litière, en gros, ou est-ce qu'en le caressant aussi, il y a un risque?
Non, lorsque vous le caressez, non. L'auditeur parlait de maladie de griffe du chat, c'est encore autre chose. C'est lorsque le chat vous griffe et puis vous pouvez avoir attrapé une bactérie, tout simplement, mais enceinte ou pas enceinte, il n'y a pas de risque. En revanche, ce qui pose problème, c'est les œufs du parasite qui se retrouvent dans les selles du chat qui vont être retrouvés dans la litière. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut être contaminé. Donc, si jamais vous devez changer la litière, eh ben, il faut mettre des gants de protection, la changer le plus rapidement possible, puisque la contamination a lieu après 24 heures à l'extérieur.
Les premières 24 heures des selles, finalement, il n'y a pas de contamination.
Exactement.
Et c'est après, donc il faut la changer tout de suite.
Si vous la changez tous les jours, l'idéal, c'est de laisser à monsieur ou à quelqu'un d'autre
pendant la grossesse, ça donne une bonne excuse de ne pas le faire.
Et puis sinon, vraiment, si vous devez absolument le faire, c'est le plus souvent possible, et surtout de bien vous laver les mains.
Il y a d'autres précautions ou c'est que le chat qui transmet ça?
Alors, il y a d'autres animaux. Alors, il y a votre animal préféré, Mélanie. Alors, c'est pas le cochon, c'est le mouton qui peut transmettre aussi la toxoplasmose. Donc, attention aux aliments crus. C'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes, ne mangez pas d'aliments crus. Et même une fois pour souffrir. Attention, ce n'est pas une dose en disant plus je mange, plus j'ai un risque de l'avoir. Une fois suffit d'attraper la toxoplasmose. Donc, aliments cuits, on lave bien les légumes, on se lave bien les mains si on fait des câlins au chat. Et puis, on surveille. En général, on fait des sérologies tous les mois pour savoir si on a eu cette toxoplasmose ou si on doit encore la surveiller.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Donc, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Alexia. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Moi j'avais une question pour vous, je voulais savoir, on entend souvent les deux, mais c'est quoi la différence en fait entre cancérigène et cancérogène?
C'est une bonne question. Je me suis déjà posée d'ailleurs.
C'est vrai, oui.
On écrit parfois des articles dessus, puis on se dit, j'utilise cancérigène, cancérogène. On a l'impression que ça veut dire à peu près la même chose. C'est vrai ou pas finalement?
Oui, il n'y a pas de différence. On peut passer à un autre sujet si vous voulez, Mélanie.
Non,
il faut quand même un peu broder. Allons.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Si on prend la définition du petit Robert qu'on est allé chercher, donc le petit Robert dit, lorsqu'on parle de cancérigène, c'est une substance qui est capable de provoquer un cancer. Et le petit Robert renvoie un synonyme qui est le mot cancérogène.
Oui, donc ça veut dire
donc
la même chose en fait.
Ça ressemble à la même chose.
D'accord. Mais d'un point de vue médical, est-ce que finalement, scientifiquement, c'est vraiment la même chose ou pas?
Alors apparemment, c'est un peu plus compliqué. C'est pour les puristes, un peu plus subtil. Alors moi, j'en fais pas partie. Je fais pas partie de ces puristes, hein, je vais le reconnaître. Mais l'Institut National du Cancer a le même avis que le dictionnaire. En revanche, on dit qu'il n'y aurait pas vraiment de différence entre les deux. Selon les sites internet ou l'Académie de médecine, on peut avoir une légère distinction, mais sans grande conséquence.
Juste rapidement, cette distinction, c'est quoi finalement s'il y en a une, hein ?
Cancérogène, ça désignerait une substance qui favorise l'apparition d'un cancer, alors que cancérigène est utilisé pour parler d'une substance qui favorise le développement d'un cancer.
Donc l'un, c'est l'apparition, l'autre, c'est le développement.
Oui, donc c'est vraiment, pour les puristes, c'est une histoire de sémantique en fonction de ce que vous aimez. Écrivez-le comme vous voulez.
De toute façon, ce mot-là, on l'aime pas trop. On préfère jamais avoir à l'utiliser.
Vous avez raison.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Alexia, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, n'oubliez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques avec la lumière bleue diffusée naturellement quand on est à la montagne. Et puis, on accueillera aussi nos invités du jour. Nous recevons deux psychologues sur ce plateau, Aurélie Calais et Clémence Prompsy. Et avec elles, deux, on va vous proposer une séance de coaching familial, de parentalité positive. Si vous avez des enfants de 3 à 8 ans, allez, 3 à 8 ans en moyenne, hein, ce qui va suivre va vous intéresser. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une lumière dont on parle souvent, la lumière bleue. Sauf que cette fois, c'est pas celle de nos écrans. Celle-là, on en parle souvent, c'est vrai. Mais celle qui existe de façon naturelle et dont les risques sont sous-estimés, notamment à la montagne. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus?
Bien sûr, je peux vous en dire plus, Mélanie.
Ah, merci, vous êtes là pour ça en même temps.
Effectivement. Alors c'est l'Association pour l'amélioration de la vue qui nous fait ce petit rappel en cette période de vacances scolaires. Où certains ont la chance d'aller à la montagne. Mmh. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de lumière bleue, on pense systématiquement à celle des écrans et on oublie que cette lumière bleue, elle est présente de façon naturelle et notamment en hiver et qu'elle peut générer une fatigue visuelle due à un fort éblouissement et provoquer aussi des problèmes de perception, d'autant plus que le rayonnement UV redouble d'intensité en altitude. Il est donc indispensable de protéger ses yeux, quelle que soit son activité lorsqu'on a la montagne.
Mais alors comment ça se fait que ce rayonnement UV, vous dites qu'il augmente en altitude? Comment on explique ça?
Je vais tout vous expliquer, Mélanie. Ouais. Alors à la montagne, l'altitude et la neige augmentent considérablement les doses de rayonnement d'ultraviolet qui sont reçues par la peau et les yeux. L'index UV augmente d'environ 10% par palier de 1000 mètres et la neige réfléchit 40 à 90% du rayonnement.
Effectivement.
Donc on a plus de rayons et en plus c'est plus réfléchi. Même par temps couvert, les rayons traversent le brouillard et la neige et conservent malgré tout leur puissance alors que parfois on pense qu'ils sont atténués.
Bon, comment s'en protéger? J'imagine vous allez nous parler de lunettes, hein, ça me paraît pas
rien
fou.
Rien ne vous échappe, ouais, Mélanie, c'est incroyable. Et donc effectivement, les lunettes ou les masques de protection, notamment de ski, même si c'est moche, ça permet de garantir une sécurité maximum.
C'est moche, parler des vôtres, hein, moi elles sont très jolies mes lunettes de soleil.
Alors ça dépend des styles, le vôtre est particulier, le mien encore une fois c'est une autre histoire. En revanche, il faut respecter deux choses. La première, c'est qu'il faut que ces lunettes ou le masque de ski vous protègent de l'éblouissement. Et ça, on peut s'en assurer avec la teinte qu'il faut qu'il soit des verres de catégorie 3 ou 4. Et il faut aussi que ça vous protège contre les rayons UV qui, eux, sont invisibles. Et eux, c'est garanti par une petite mention qui sera gravée de préférence sur les branches ou à défaut sur une étiquette. Évidemment, on essaie d'acheter ses lunettes chez un opticien et pas au bazar du coin.
D'accord, et donc on doit avoir une prudence particulière chez les enfants aussi, non?
Bah oui, parce que déjà c'est difficile de les équiper, ils refusent souvent de les mettre.
Quand ils veulent les porter, c'est bien déjà. Ouais.
Et en plus, les yeux des enfants sont évidemment plus fragiles et plus sensibles aux agressions du soleil. Et donc il faut leur mettre, quelle que soit l'activité, soit les lunettes ou le masque.
On leur scotche s'il le faut, s'ils veulent
exactement.
Pas le garder.
Et donc il ne faut pas que ça se limite à la pratique du ski. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont arrêté de skier, il faut leur mettre au moins les lunettes de soleil classiques pour toutes les autres activités à l'extérieur. Elles doivent aussi protéger de façon latérale contre les rayonnements indirects. Et puis, elles doivent être adaptées à la taille du visage de l'enfant, surtout que les plus jeunes ont une morphologie parfois du visage un peu particulière. Et lorsque l'enfant chute ou glisse, elle pourrait se casser. Donc attention, on peut éventuellement mettre un petit élastique. Les verres doivent être impérativement incassables. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a un site internet qui est très bien fait. Ça s'appelle c'estmavue.org. C'estmavue.org. Et vous aurez toutes les informations nécessaires.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons nos deux invités pour le dossier du jour. Aurélie Calais et Clémence Promsy. Elles sont psychologues et fondatrices du cabinet Kids and Family. Elles sont aussi les auteurs du livre « Je ne veux pas » aux éditions Au fil de soi.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Aurélie, bonjour Clémence.
Bonjour Mélanie.
Alors, pour débuter cette semaine, on a dit que vous allez nous aider à retrouver une belle harmonie familiale. Que de promesses pour nous, Jimmy et moi, tous les deux parents de plusieurs enfants. On vous attendait avec impatience. Vos conseils, très concrètement, ils s'adressent à qui, ce qu'on trouve dans votre livre? À quel type de famille? Est-ce que c'est vraiment forcément des gens qui ont des enfants très turbulents ou c'est finalement pour tout le monde?
Pas forcément, on a un peu tout type de famille. On va dire que le motif qui fait que les gens poussent la porte du cabinet, c'est quand ils commencent à manquer un petit peu de moments de plaisir avec leurs enfants. Mmh. Ils ont l'impression qu'ils se fâchent beaucoup.
Ouais, ça nous parle, Jimmy.
Et donc ça, c'est une des principales raisons qui poussent les gens à consulter, simplement ça? Ou il y a d'autres raisons qui peuvent faire que les parents décident de franchir le cap?
Clémence, peut-être?
Alors nous, on est psychologue, du coup, on a aussi le droit à tous les symptômes de manque de confiance en soi, de dénuresie, de pipi au lit, de disputes, de rivalité. C'est vrai qu'on a élargi le champ un peu classique de la psychothérapie à l'élargir à la famille. Et donc, on va aider aussi les gens pour passer un divorce ou pour les rivalités entre frères et sœurs qui peuvent nous pourrir un peu la vie tout le week-end. Voilà, on s'est vraiment élargi et aujourd'hui, je dois dire qu'on a des motifs... C'est un véritable éventail.
D'accord. À partir de quand, justement, il faut consulter, d'ailleurs? Parce que, bon, avoir des problèmes en famille, on en a tous. Élever des enfants, c'est pas facile, surtout quand on travaille en même temps. Est-ce qu'il y a des, un marqueur, par exemple, quand ça commence à parasiter le couple, par exemple? Ça, c'est un moment où on se dit, tiens, là, il faut consulter quand dans le couple, ça va plus.
Oui, alors ce qui est certain, c'est que nous, on essaie de...
À cause des enfants, bien sûr. Hein, ouais.
À cause de... De tout. Tout le monde est important, justement. Nous, on essaye vraiment de déculpabiliser les gens et de pousser la porte. Souvent, une consultation, deux consultations, ça fait déjà un bien fou de se sentir compris. Puis alors, nous, on n'est pas des donneuses de leçons en disant trop fastoche, chez moi, j'y arrive hyper bien. Vraiment, nous aussi, on trouve que c'est difficile. Les journalistes aussi qui nous intéressent sont toujours contents et nous disent c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Le monde aujourd'hui, il va très vite. Les enfants vont très vite. Voilà. Et puis, les nouvelles règles éducatives veulent qu'on fasse moins de punitions. On ne met plus un enfant dans sa chambre pendant 2 heures.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles non plus, hein.
Pas du tout, au contraire, mais il faut se réadapter et c'est pas forcément ce qu'on a reçu quand on était enfant.
Aurélie Clémence, on ne fait que commencer ces conseils donc de coaching familial, bien sûr, vous restez avec nous. Dans un instant, on va donner plus de conseils pour retrouver une harmonie familiale, comment réagir quand votre enfant ne veut pas se coucher, faire ses devoirs, arrêter de se bagarrer avec son frère ou sa sœur, à suivre plein d'astuces bienveillantes, vous allez voir, ça va vous intéresser, j'en suis sûre. Mais d'abord, un peu de musique, on écoute le chanteur Renan Luce avec son morceau qui était sorti en 2007, ça s'appelle « La lettre ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités, Aurélie Calais et Clémence Promsy. Elles sont psychologues et fondatrices du cabinet Kids and Family. Elles sont aussi les auteurs du livre « Je ne veux pas » aux éditions Au fil de soi. Alors Aurélie, Clémence, on va d'abord commencer par les problèmes du quotidien, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même au maximum. Un moment qui est particulièrement apprécié ou même redouté, c'est un peu les deux, hein. C'est quand on les retrouve le soir, les enfants, après le travail parfois. On est déjà un peu fatigué, c'est presque une deuxième journée qui commence. Et c'est un moment où il y a beaucoup de conflits. Hein. Ça cristallise un peu les conflits, Aurélie, Clémence, qui commence. Aurélie?
Oui, alors c'est vrai que parce qu'en fait, ce qui est compliqué au niveau du soir, c'est que les parents rentrent généralement assez tard et qu'on a un peu ce stress de ne pas coucher les enfants trop tard, sinon ils vont être fatigués et que les parents ont aussi besoin de leur soirée. Donc on essaye en 1h30 de temps de faire le repas, le bain, les devoirs, le coucher. Et les enfants,
on est content de les retrouver, mais c'est souvent un moment difficile. Hein.
Mais parfois, on est un peu pressé aussi de les coucher parce qu'on est crevé.
C'est ça.
Aussi.
Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour rendre ce moment? Puisque bon, c'est 1h30, il y en a qui ont la chance d'avoir un peu plus de temps, mais quand on n'a 1h30, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas cataclysmique, 7h30 avec eux, quoi?
Ce qui est important, c'est déjà toutes ces choses obligatoires du quotidien, ce dont je parlais tout à l'heure, se laver les dents, les devoirs, le bain. Enfin, ça, c'est ce qu'on va être amené à faire avec eux pendant 15 ans. Donc quand ils sont encore petits, donc effectivement jusqu'à 8-9 ans, on dira pas pareil pour des ados, mais en tout cas quand ils sont petits, c'est de passer au maximum par le jeu. C'est-à-dire que toutes ces choses du quotidien qui sont pas tout, enfin c'est pas tous les jours rigolo de faire le repas, les devoirs, il faut essayer de rendre ça le plus rigolo possible, comme ça dans ce temps qu'on a avec les enfants, même s'il ne dure qu'1 heure, si on passe tout ça plus par le jeu, et ben ça reste un moment de complicité.
Comment on fait le repas en jouant alors avec eux? On le fait avec eux du coup?
Alors, parce que très souvent les parents disent bon, vous avez un temps calme, vous pouvez vous poser pendant que je fais le repas, et c'est là que les frères et sœurs commencent à se disputer, qu'on doit intervenir.
Ouais.
Donc même s'ils sont petits, on les prend à côté de nous, même si c'est juste pour verser du gruyère râpé dans un bol. Peu importe, ils adorent tripoter,
ouais.
Mais on est tous dans la cuisine, il y en a un qui tient le truc de recette, enfin, faut vraiment les faire participer au maximum.
Jimmy ?
Alors moi j'ai 3 enfants, donc ça commence bien.
D'où les cernes,
voilà.
On relève tous les challenges.
Mais le deuxième c'est une terreur, peut-être je me dis que le premier on lui donne beaucoup d'attention parce qu'il y a l'école et on veut qu'il réussisse, le dernier, bon bah c'est le dernier, c'est le chouchou, et le deuxième, et finalement il est un peu entre tout le monde, est-ce qu'un enfant qui serait pas un peu turbulent, c'est un enfant qui demande de l'attention finalement, pour qu'on s'occupe de lui et voir jusqu'où on serait prêt à aller, bah pour qu'il se rende compte qu'il existe.
Clémence ?
Tout à fait, oui, ça arrive souvent. Alors, on parle souvent du complexe de celui du milieu. Nous, on n'aime pas trop ça, on essaye de s'en éloigner. Mais en tout cas, ce qui peut être pratique pour vous et en tout cas donner des résultats assez rapidement, c'est d'essayer de ne pas relever quand ça ne va pas et de faire une tonne de démonstrations quand ça va. Quitte à surjouer un tout petit peu, mais en mettant quand même un brin de sincérité. Mais quand ils sont sages, on a du mal à le relever. Et ouais, parfois, celui-là... Ouais. Je crois que vous m'avez dit tout à l'heure, je vous ai demandé vos âges, je crois qu'il a 4 ans, celui du milieu.
Ans, oui, ouais.
On peut aller lui dire, tu sais, ce soir...
C'est bien, t'as pas tout cassé aujourd'hui.
En allant se coucher, ça prend 30 secondes. J'ai été super fière de toi. On a passé une soirée qui était vachement douce, vachement calme, il y a eu moins de disputes. Je t'ai vu jouer, j'ai bien vu que tu avais colorié. Vous voyez, j'en fais des tonnes et en même temps, je suis sincère. Je n'exagère pas, mais en tout cas, je vais vachement noter. Ça nous empêchera pas, évidemment, de lui dire attention, la prise électrique, mais...
Mais l'autorité, ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, l'autorité telle qu'on l'entend, Jimmy, punir celui du milieu qui est plus dur que les autres, va le punir, j'en sais rien, de ce qu'il aime, ça marche pas ça.
Non, la privation, malheureusement, méthode, ça marche pas. Dans nos grandes astuces, on essaye d'aider les gens à poser des punitions qu'on va essayer de dire positives. Quand on répond à 4 règles un peu bienveillantes, ça devient plus des punitions mais des conséquences. Votre enfant, il doit être au courant de la conséquence avant les problèmes. Ça doit pas lui tomber sur le coin du dos. Vous, quand vous perdez 4 points sur votre permis de conduire, vous le saviez, on vous le dit pas caché derrière le feu rouge. On sait à quoi on s'attend.
Donc là, on dit quoi, par exemple, à un enfant, je sais pas, turbulent, qui tous les soirs va chercher des noises à son grand frère? Là, par exemple, c'est quoi? La règle positive.
C'est un peu large, mais peut-être on va choisir la chambre ou le dîner ou quelque chose comme ça. Si à table vous vous disputez tous, alors on n'arrivera plus à manger tous les 5 et vous mangerez tous les 3 dans la cuisine demain. Je vais juste finir les 4 règles pour vous montrer comment ça marche. Il faut que ce soit court, c'est-à-dire qu'on ne va pas le priver, par exemple, de dîner en famille pendant un mois. On va juste faire un dîner. Et comme ça, le jour d'après, on va reprendre ce qui est plus sympathique.
Mais surtout à 4 ans, ça ne sert à rien. En fait, à 4 ans, un enfant sage, globalement, de toute façon, ça n'existe pas.
Enfin, non, un enfant obéissant est un enfant malheureux.
Quelqu'un qui vient vous voir en consultation en vous disant « je veux que mon enfant soit sage », vous dites « bah non ».
On dit « c'est pas réaliste en 2020 ». Il n'écoute rien, je voudrais qu'il obéisse, ça n'est pas réaliste.
Par contre, un enfant qui peut être couché à 19h, à 20h, pour que Jimmy dorme, ça c'est possible, arrive à mettre des choses en place pour que les choses se passent mieux.
Tout à fait.
Mais il sera toujours turbulent, un peu, c'est un enfant.
Tout
quoi.
À fait, mais ce que disait tout à l'heure Aurélie aussi en parlant de mettre du jeu, après nous on demande aussi beaucoup aux parents de ne pas mettre toute leur énergie dans 50 combats en même temps. Vous allez faire un mois sur l'hygiène dentaire et ça va être la semaine de l'hygiène et on va faire un grand challenge dans la famille, qui se lave les dents le plus longtemps, etc. Et puis après on va se tenir bien à table, et puis après on va être doué avec les copains, et puis après on va faire le sommeil. On ne peut pas être sur leur dos toute la journée voilà, jusqu'à leurs 18 ans, ce n'est pas possible.
Oui, qui est justement l'objectif dont parlait Jimmy. En fait, si des parents viennent en nous disant « je voudrais que mon enfant soit sage », on leur dit « en fait, ça n'est pas un objectif pour votre enfant et pour votre famille ». Les enfants, quand on leur dit « bah, on attend de toi d'être sage et poli », ça ne leur parle pas. Il faut vraiment se centrer, ce que disait Clément, sur des choses extrêmement précises et on ne s'attaque qu'à un objectif ou deux. Comme ça, l'enfant a l'impression que c'est gagnant pour lui. Les parents ont l'impression que « bah tiens, on a réussi notre objectif avec cet enfant-là, parce que c'est ça en ce moment qui nous pose problème. » Donc tout le monde est content et a l'impression d'y arriver.
Jimmy ?
Donc vous disiez que votre méthode est aussi basée sur le jeu, mais vous parlez justement de 2-3 règles qu'on peut instaurer sur un mois. Concrètement, quelles règles on peut leur donner ? Je ne sais pas, manger en silence, se brosser les dents et tirer la chasse d'eau après être allé aux toilettes. Est-ce que 3 choses comme ça simples, c'est réaliste ? Il ne faut pas essayer d'en mettre 10 d'un coup ?
Alors, manger en silence avec des petits, je pense que ça va être balle.
Ça vous rêvez, Jimmy.
Et il va être dur.
C'est un silence relatif, sans bagarre, sans cri, sans
mais
pleurs.
Mais par contre, ça peut être, voilà, ça peut être un dîner, où tout le monde s'écoute parler, chacun respecte le temps de parole, on parle chacun son tour. Un truc qui est hyper bien quand il y a plusieurs enfants, c'est que chacun puisse raconter à tour de rôle, et parents y compris, si vous êtes là au moment du repas, que chacun puisse raconter sa journée. Toi aujourd'hui, le moment préféré de sa journée. Pour les plus grands qui ont un peu de mal à parler, on prend l'emploi du temps. Aujourd'hui, tu as eu histoire, qu'est-ce que tu as appris? C'est chouette pour les plus petits d'entendre. Voilà.
Souvent, c'est la bagarre. C'est fini ton assiette, mange, tais-toi, lave-toi les mains.
Alors, ça a l'air sympa chez les Mohamed. Clémence, vous voulez rajouter quelque chose?
Au repas, oui, les trois règles. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quatre règles.
Oui,
par contre.
Quatre
règles. On l'a pas terminé, j'ai terminé.
Pour
ça,
l'idée
peut-être.
De faire une punition bienveillante, c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup les gens. Alors, il y a des gens qui nous disent ouais, j'ai bien essayé, hein, mais c'est dur quand même d'avoir la quatrième. Donc, il faut que ce soit connu à l'avance, court. Que ce soit en lien avec le problème, du style ça se passe mal à table, donc il y aura un problème sur le dîner de demain, et pas je te prive de télé ou je te prive de jeux vidéo, qui n'a aucun rapport. Ça va juste dire à l'enfant, j'ai plus de pouvoir que toi. Et respectueux, on le dit gentiment, on n'a pas besoin d'être humiliant.
Et pas crier. Aurélie, Clémence, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à vous donner plein d'astuces pour mieux gérer certaines situations difficiles avec les enfants. Le repas, par exemple, on vient d'en parler. Ça peut être un long combat, mais on va parler aussi des conflits, des bagarres parfois incessantes entre frères et sœurs. Enfin, on va vous donner aussi quelques conseils pour les vacances ou les week-ends. Certains sont en vacances en ce moment, ça tombe bien. Alors, pour que tout le monde arrive à un peu se reposer, on va vous donner quelques conseils. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et nos invités Aurélie Calais et Clémence Promsy. Elles sont psychologues et fondatrices du cabinet Kids and Family. Aurélie, Clémence, on va passer à une autre période qui est un peu critique avec les enfants. Un petit moment parfois compliqué. Le matin, on se réveille. Je parle les matins de semaine hein, où il y a école, le travail, on est pressé. Dépêche-toi, lève-toi. C'est un moment qui est très compliqué. Comment on gère ça, notamment l'enfant qui veut pas se lever, par exemple. Je veux pas me lever, je veux encore dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? En étant parentale, dans la parentalité positive toujours. Hein.
Peut-être le lever un tout petit peu plus tôt avec une playlist de musique qu'il aime bien. Ça va un petit peu éveiller son cerveau tout doucement avec ses petites chansons préférées, soit toutes douces, soit au contraire hyper funky. Mettre ses habits sur le radiateur pour qu'elles soient bien chaudes. Le froid, ça endort. Le chaud, ça réveille.
Donc, pas mal, ça.
Du froid le soir et le chaud le matin. Vous n'hésitez pas, si vous faites un premier passage, à remettre une deuxième couette. Plus ils auront chaud et plus leur organisme se réveille doucement.
D'accord.
Moi,
dépêche-toi, ça marche pas en tout cas. Enfin, une fois qu'il est levé, parce que moi je suis là, allez, dépêche-toi, il manque 5 minutes là avant d'aller à l'école.
Pistolet à eau, non,
ça marche pas très bien.
Très douceur.
J'ai remarqué que c'était pas efficace en tout cas, mais c'est vrai qu'on a tendance à leur dire dépêche-toi, mais en fait ils ont pas la même notion de temps que nous. Quand je lui dis il nous reste 5 minutes là avant de partir, ça veut rien dire à un enfant de 4 à 8 ans là.
Et puis moi, mon astuce préférée, ça a toujours été de mettre un réveil qui veut dire rendez-vous dans l'entrée. Et qui même me suivent, c'est l'heure où on met ses chaussures. Donc tu viendras pieds nus si tu veux, je les prendrai à la main. Mais ça, et voilà, je mets un chien sur mon iPhone qui aboie très fort. Et maintenant, c'est tout le monde, ils arrivent, ils savent qu'en fait, il reste vraiment que 5 minutes. Quoi.
C'est pas mal l'alarme du chien, ouais, Jimmy, ça vous parle.
Allez-y, Jimmy. Alors c'est vrai que donc, chez les Mohamed, c'est la bagarre. notamment chez le repas.
Garçons.
Chez les Gomez aussi, je vous rassure. Et notamment au moment du repas. Et c'est, comment est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui refusent de manger notamment les légumes? Ou même finalement parfois des plats qui ont l'air très très bons et qu'on a pris du temps à cuisiner et que l'enfant refuse catégoriquement. Est-ce que vous avez des petits conseils?
Alors déjà c'est important, si jamais vous êtes là, qui vous aide à la préparation du repas. Souvent en fait, si jamais déjà ils sont pas à l'aise sur le fait de manipuler les aliments, déjà de laver les haricots verts, de les couper.
Moi j'ai déjà essayé, mais elle dit beurk, pas bon ça. Elle me lave, mais elle dit c'est pas bon ça.
Alors après, il faut essayer selon l'âge des enfants. Ce qui est important en tout cas, c'est de rendre pareil l'assiette rigolote. Et pour ceux qui ont du mal à manger, très souvent les parents font des énormes quantités. Donc l'enfant est complètement découragé en fait devant l'assiette qui paraît être énorme. Donc la bonne astuce, c'est que si vous avez un plateau à fromage rond, vous sortez ça et vous mettez une quantité minus au milieu. Enfin, visuellement, l'enfant va se dire, en fait, il n'y a rien dans mon assiette.
Il n'y a que ça, ouais, un tout petit bouquet de brocoli.
Plus vous prenez une assiette grande, mieux c'est. Après, il y a des petits plateaux assez rigolos, en fait, qui sont comme un jeu de loi. Je ne sais pas si je peux donner le nom.
Oui, ouais, bien sûr.
Okay. Ça s'appelle Winner Dinner. C'est un petit plateau comme un jeu de loi. Il y a pour les garçons, pour les filles. C'est mini quantité. Et l'idée, c'est de faire toujours un aliment ami, toujours quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et en fait, voilà, il doit passer par chaque case. Et à la fin de la dernière case, il y a un petit truc à soulever avec une petite surprise.
Un petit chocolat à la
fin. Côté ludique, qui peut-être marchera un peu.
Et surtout dans ce que vous disiez tout à l'heure, ou enfin ce dont parlait Clémence, en fait, si jamais ils se rendent compte que quand il est très agité, on fait plus attention à lui, c'est pareil. Si le fait, je sens que ça inquiète énormément mes parents, l'alimentation, et que tout le repas tourne autour de moi, en fait, ça attire de l'attention et en gros, ça marche à chaque fois. Ayez plutôt l'air de dire, voilà, c'est normal de s'alimenter, c'est normal de manger des légumes. Je te demande juste de goûter. Petite quantité, énorme assiette. En gros, voilà, je te demande juste de goûter. Si tu manges, c'est bien. Si tu manges pas, Je reproposerai demain. En gros, c'est dommage pour toi, mais moi, ça ne me touche pas.
Mais vos astuces, que ce soit le petit jeu de loi là, qui a l'air sympa, moi, je m'imagine que ça va marcher 2-3 jours, et puis bon, au bout d'un moment, elle va comprendre le côté t'essayes de me berner en me faisant un jeu. Il faut changer, il faut faire preuve de créativité, Clémence.
La reconnaissance, c'est le meilleur des salaires. C'est vous êtes contente d'être payée à la fin du mois, mais qu'on vous dise que votre travail, il est bien, qu'il est important, ça, c'est vraiment les enfants, ils y reviennent. Et si on est vraiment fier d'eux, alors on n'hésite pas, on peut en parler devant les grands-parents en disant tu peux pas savoir comme je suis fier de Camille, elle a décidé de
manger
goûter
tous ses brocolis.
C'est incroyable. Ouais. Non, alors elle aime pas, mais elle a, maintenant c'est super, elle goûte.
Ouais.
Donc c'est déjà génial en fait. Et ça, ça va être un goût de reviens-y psychologique en fait. Sur notre site, tout en bas de notre page d'accueil, on a mis plein de petits supports parce qu'on essaye d'avoir des idées qu'on fait dessiner par notre chère illustratrice. Et du coup, par exemple, pour les aliments, on a fait un petit tableau et juste on va noter ce que l'enfant a bien voulu goûter, même du bout du petit doigt, mais c'est pas grave, on va le noter.
Et c'est puis, bravo à chaque fois.
Oui, en fait, sur le tableau, c'est marqué j'ai adoré, j'ai aimé bof, et il faudra que je regoute, ça veut dire j'aime pas. Mais en tout cas, ou il colle une petite gommette à chaque fois que c'est fait, ou s'il commence à écrire, c'est eux qui écrivent sur le tableau. Et en fait, peu importe, t'as noté un truc dans le tableau. Et déjà, ils sont contents de
on
faire ça.
À eux.
Dimi ?
Autre moment de bagarre chez les Mohamed, mais aussi chez tout le monde, voilà, je prends pour tous. Mais c'est le bain. C'est vrai qu'ils ne veulent absolument pas aller dans le bain. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils ne veulent plus en sortir.
Comment ça, ils ne veulent pas y aller, mais ils veulent plus en
moi,
sortir.
Moi, je leur crie dessus, allez, ça y est, c'est bon, il est 8h15, allez, il faut aller se brosser les dents, il faut aller dormir. Mais
excellente
comment on fait
technique.
Ouais,
ça, alors, vous allez essayer, vous pouvez essayer dès ce soir, ça marche vraiment très bien. En fait, ce qu'il faut que vous arriviez à vous dire, c'est que les enfants ne sont pas des grands insolents. Leur pulsion, elle est saine. S'ils sont dans ce qu'ils sont, c'est parce qu'en fait, tout leur cerveau est en train d'envahir l'objet sur lequel ils sont. Donc, ils étaient dans leur chambre sur un Playmobil, tout leur cerveau est sur ce Playmobil, et une fois qu'ils sont dans le bain, tout leur cerveau est à plonger dans le bain. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est changer d'activité. Donc vous, en tant qu'adulte, c'est très facile, vous essayez, quand vous pouvez, de déterrer l'objet sur lequel ils sont, c'est-à-dire le petit bateau. Tiens, je me demande si on ne pourrait pas l'emmener chez le garagiste des bateaux, parce que tu sais que dans ta chambre, j'ai vu un grand garage où, pour les bateaux cassés, on pourrait les mettre. Ou alors, s'il est avec son Playmobil, je me demande si ce Playmobil ne pourrait pas aller sauver le dauphin que je viens de jeter au fond de la baignoire.
Tout le temps. Moi, j'amène le jouet dans le bain, même s'il va pas. S'il est en bois, il est foutu après. Mais...
Exactement. Et après, bien sûr, il y a plein de parents qui nous ont dit, et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on a écrit notre livre. Alors, ça a super bien marché, le coup du
pompier.
Trois jours. Évidemment, il en faut plusieurs des astuces. Mais vous pouvez faire un petit restaurant dans la baignoire, vous pouvez faire des expériences chimiques avec trois bouteilles en plastique et un petit bain moussant. On peut, et puis voilà. Et puis, on peut aussi mettre des règles et dire, écoute, voilà, si on doit se fâcher, qu'il y a de l'eau partout, que vous vous disputez avec vos frères et sœurs, demain, alors d'abord, quand on fait une bêtise, on répare. Donc, tu m'aideras à essuyer par terre. Et demain, il n'y aura pas de bain, il y aura une petite douche rapide.
Il y a quand même des punitions. Enfin, c'est pas le bon
c'est
mot,
mais
c'est des conséquences. C'est
comme
ça.
Vous avec le feu rouge.
Voilà. On a punition, mais ça reste ça. Tu nettoieras avec moi, mais c'est une conséquence.
Une punition, ça apprend juste à l'enfant qu'on est plus fort que lui et qu'on le soumet à notre autorité. Et une conséquence, c'est juste la vie, en fait.
Oui, c'est ça.
Il y a des conséquences pour,
c'est
tout,
bien pour la suite. Il y en aura besoin, hein, c'est sûr. Autre moment un peu difficile, les devoirs. Alors là, on est chez des enfants un peu plus grands, mais admettons 8-10 ans. Il veut pas faire ses devoirs. Le soir, c'est non, je veux pas faire mes devoirs. Pas tout de suite, après, je les ferai plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, Aurélie, là-dessus ?
Alors, c'est vrai que les devoirs, c'est clairement, moi, je trouve, ce qui cristallise le plus les conflits avec ses enfants.
Moi, j'essaie de lui faire faire à l'étude pour pas m'en occuper.
Alors, quand on peut, l'étude n'est pas une mauvaise idée.
Ouais, moi, il y a des gens formés qui lui font faire.
Et on check et on vérifie. Après, ce qui est important, c'est de pas se laisser trop déborder par le temps. Pour les devoirs, c'est pas mal de bosser avec les enfants avec un accessoire qui s'appelle un time timer.
C'est quoi ça ?
En fait, c'est une espèce de réveil, mais contrairement au minuteur ou au sablier, en fait, où on se rend pas, ça sonne quand c'est terminé, le minuteur. Le time timer, en fait, c'est une zone rouge qui va diminuer. Donc, en plus, c'est assez gros, ça fait genre 8 cm. Vous le mettez devant le bureau de l'enfant et dire, OK, donc ce soir, il y a maths français, par exemple. Mm-hmm. Donc, les maths, tu penses qu'on peut les faire en combien de temps ? 10 minutes, OK.
Il se met un petit
défi comme ça,
je mets
le timer sur 10 minutes. Allez, il faut qu'on ait fini. En gros, avant qu'il y ait plus le rouge, il faut qu'on ait terminé. On peut tout à fait aussi, avant de commencer, dire OK, on fait les règles des devoirs. Tous les deux, on promet, moi je me fâche pas et toi tu mets de la bonne volonté. Et plus vite on a fini, plus on a de temps pour faire un jeu. Enfin voilà.
Jimmy ?
Bon, en ce moment, il y a ce qu'on appelle les vacances scolaires, qui sont plus proches de la torture quand on a des enfants et qu'on ne part pas en vacances, parce que tout le monde ne peut pas partir tout le temps en vacances. Et c'est vrai qu'on arrive en fin de période de vacances scolaires, en tout cas pour notre zone
ouais.
Et on est encore plus fatigué qu'au début, un peu au bout de notre vie, prêt à abandonner les parents. Est-ce qu'il y a des moyens pour éviter de passer des moments si compliqués ? Même si on essaie de faire des activités, évidemment.
C'est censé être reposant, les vacances, et pour les parents, c'est pas toujours le cas, on est d'accord ?
Non, pas vraiment. Enfin, non. Vraiment pas même. Mais déjà, ce qu'il faut se dire en tant qu'en famille, c'est d'essayer de pas viser la perfection. C'est vrai que c'est quand même très compliqué. On a peut-être des souvenirs d'enfance où on a enlevé les choses mauvaises, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, faut pas viser la perfection, faut chercher les petites miettes qui vont bien. Parce que ça va passer très vite, que dans 5 ans, finalement, ils ont tous 13 ans et qu'il n'y a plus personne à la maison, ils font du skateboard toute la journée, on les voit plus. Donc malgré tout, il faut qu'on en profite. On les a quand même fait pour faire une famille et voir nos enfants.
Bien sûr.
Donc il faut juste chercher les petites miettes qui vont bien et pas viser la perfection. Parce que quand on cherche la perfection ou la nostalgie de notre enfance et la perfection de nos pistes de ski, c'est la cata et ça ressemble pas du tout.
Et, ça, et comment on s'y prend? Alors vous dites on cherche pas la perfection, ça je comprends bien, mais comment on, en tant que parent, quand c'est les vacances, on a aussi besoin de se reposer un peu?
On peut
comment dealer. On arrive à se reposer avec des enfants 24 heures sur 24?
Comme disait Aurélie sur le deal des devoirs, on peut dealer sur moi j'ai, avec papa on a besoin de se reposer et vous, vous avez besoin de vous amuser. Donc comment on va faire pour que moi je crie moins et que toi tu t'amuses plus? Je propose qu'il y ait ça, ça et ça de cool. Si on est au ski, la luge, un resto en famille et 3 soirées dessins animés, peu importe. Mm-hmm. Par contre, nous, on a besoin de 3 soirées cool où vous vous mettez dans votre lit et vous lisez un petit livre ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais on va essayer de dealer pour que chacun a le droit d'exister, en fait. Les parents ont le droit de se reposer,
c'est ça.
Et puis, si vous pouvez, vous essayez de trouver une conséquence. N'hésitez pas, que ce soit l'été ou l'hiver, à le premier jour, aller à l'office du tourisme, chercher le club Mickey en disant « On est bien d'accord, madame, que s'il y a vraiment des gros problèmes, nous pouvons encore inscrire notre enfant demain au club Mickey. » Et bien sûr, jamais menacer un enfant de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, mais si on passe une trop mauvaise journée au ski ou ailleurs ou chez sa grand-mère, eh ben tant pis, on va rester tout l'après-midi ici, à deux, et voilà, et entre guillemets, tout le monde est puni, et demain, on passe une meilleure journée. Mais...
Jimmy, ça vous parle? Là, vous commencez à noter.
Oui, ça commence un peu tard, les vacances sont terminées, mais d'ailleurs, bon, nous, on appliquait une petite technique, c'est un jour sur deux, le matin, un des deux faisait la grasse mat à 9h30, 10h, parce qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps ensemble. Nous, on est 5 et puis on peut peut-être essayer de se diviser pour mieux régner.
Ça, c'est une de vos astuces, Aurélie. Hein.
Oui, ça, c'est la vraie bonne idée. Et c'est valable pour les vacances, c'est valable pour les week-ends et pour les soirs de semaine. C'est vrai que les parents ont tendance, comme ils voient peu leurs enfants, à vouloir toujours tout faire tous ensemble en famille. Mais en fait, tout le monde s'épuise un petit peu, vous qu'en avez 3 d'autant plus. Et surtout, quand il y a un écart d'âge important, même vous, il y a un écart d'âge. Finalement, quand on se dit on fait tous ensemble, l'activité pour le plus petit peut pas forcément... Enfin, ça pénalise un peu le grand parce que c'est pas sympa. Donc, faut pas hésiter, effectivement, ou à diviser les parents. Papa part avec l'un, maman part avec les deux plus petits, enfin voilà.
Ça leur fait plaisir aux enfants d'être de temps en temps tout seuls avec leurs parents aussi, c'est ça. Ils sont plus sympas en général quand on les sépare.
Mais souvent, ça se passe super bien,
c'est vrai.
C'est des moments plus qualitatifs. Cette histoire de se lever, effectivement, le week-end, ça sert à rien que les deux parents soient levés les deux à 8h du matin.
Oh, 8h du matin, vous êtes gentil, hein. Chez moi, c'est 7h.
Hein. Oh, okay,
après, le vrai truc quand même, globalement, pour les vacances et tout ça, c'est d'apprendre aux enfants d'être autonomes. Plus ils vont être autonomes, moins ils vont vous solliciter pour tout. Plus vous pouvez quand même.
Ah oui, ça c'est génial. Ils se lèvent le matin parfois. Bon, je l'avoue, on dort et puis ils vont servir dans le frigo, ils vont manger quelques minutes, faire du bruit et on va se lever secondairement. On les laisse un peu en autonomie.
Mais il faut sortir le paquet de céréales, voilà le truc. Bien, oui, il faut tout en disant voilà.
Les clés de la voiture, tout. Je leur dis allez-y, faites un tour, laissez foutez-nous la paix.
Le restaurant aussi, c'est vrai que c'est compliqué quand on a la chance de pouvoir aller au restaurant de temps en temps, en vacances par exemple. Je sais pas, moi ça m'est arrivé plein de fois de nous enfuir avant même d'avoir mangé le dessert. Tellement ils font du bruit, non, l'addition on la paye, mais on part parce que finalement c'est plus un moment insupportable qu'autre chose. Ils sont dissipés, ils font du bruit, ils gênent tout le monde. Comment on peut passer un bon moment au restaurant?
Typiquement, ça, moi j'appellerais ça une sortie entraînement. On fait ça au cabinet. Vous allez faire un restaurant exprès pas trop loin de chez vous, soit à pied, soit en vélo, et vous vous mettez d'accord avec votre mari en disant si ça part pas bien ou si ça se passe mal. On donnera bien les règles du permis de conduire, à savoir combien de points on perd, mais l'un des deux parents peut très bien quitter le restaurant et rentrer à la maison avec le casse-pied.
Celui qui...
Cependant que l'autre adulte va rester avec un enfant ou même son téléphone.
Ça, j'avais pas pensé à ça. Non, on part tous, du coup. Mais...
Et ben, ouais, si possible, vous essayez de splitter le groupe et vous prévenez par contre à l'avance. On dit gentiment, voilà ce qu'on peut pas faire et voilà ce que tu pourras faire. Il y a de la grenadine, du ketchup, des frites, c'est cool, t'auras une glace. Par contre, on peut pas courir et on peut pas crier. Et vous pouvez même lui expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des serveurs, on peut pas leur rentrer dedans et il y a des clients qui sont là pour parler. Donc, si toi, tu parles et que tu cries, plus personne n'entend la conversation. Tu comprends? Ok, mais sinon, il y a des frites, de la grenadine, et voilà. Mmh. Chacun peut trouver. Si ça se passe
ça
mal,
paraît simple, hein, comme ça.
Ou si c'est trop difficile pour toi. C'est bien aussi de leur dire, si tu n'y arrives pas, si c'est trop dur pour toi d'être sage au restaurant, eh bien, il n'y a pas de souci. Genre, en fait, l'idée, c'est de ne pas se fâcher. Pour de vrai, il n'y a pas besoin de se fâcher. Nous, on estime que c'est un moment sympa. Si c'est trop dur pour toi aujourd'hui, c'est pas grave. Toi, tu rentres avec moi. Papa reste avec ton frère et ta sœur.
Peut-être avoir envie de rester là.
Et on réessayera demain. Mais en tout cas, vous le faites. Du coup, le lendemain, quand vous retentez 3 jours après, il sait, OK, si j'y arrive pas, Effectivement, et l'idée, on ne s'est pas fâché, il n'a pas été puni, il y a juste la conséquence.
Jimmy ?
Un mot peut-être sur les écrans, est-ce qu'il faut être encore plus strict pendant les vacances, qu'on a tendance parfois un peu à se relâcher, ou même le week-end à les exposer un peu plus, alors peut-être qu'il ne faudrait pas ?
Nous, toutes les deux, avec Clémence, on n'aime vraiment pas dire aux gens ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, parce qu'on estime que voilà, on a déjà beaucoup de règles dans la vie, et qu'avec ses enfants, c'est chouette que chacun puisse être libre de faire comme il a envie. Donc vraiment, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser les gens. En gros, les écrans, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une source de conflit quand il faut les couper.
Mmh. Mais en vacances, on a tendance à les laisser un peu plus. Hein. C'est vrai que moi, habituellement, en semaine, il n'y en a pas. Mmh. Pendant les vacances, je laisse un peu plus la tablette.
Mais ce qui est bien, c'est de lui expliquer. Dire là, c'est des vacances, c'est exceptionnel. Quand ce ne sera plus les vacances, quand tu reprendras l'école, on reprend la règle des écrans. Mmh. C'est un épisode le mercredi et un le dimanche matin. Mmh. En fait, il faut toujours expliquer les exceptions.
Et pendant les vacances, pour terminer, les parents ont aussi le droit éventuellement de les envoyer chez les grands-parents. On peut aussi faire ça de temps en temps, sans culpabiliser trop. Clémence ?
Oui, alors quand on a la chance d'avoir des grands-parents, oui. On peut carrément les envoyer chez les grands-parents. Et c'est super, c'est le repos du guerrier pour les parents. Très bonne idée même. Il ne faut pas oublier de prendre soin de votre couple, parce que la famille tient sur le couple en fait. Les enfants, les pauvres, c'est juste un moment difficile à passer pour eux. Et puis après, ils seront libres, ils feront ce qu'ils veulent. Mais nous, il faut qu'on tienne le coup et qu'on tienne la route.
Merci beaucoup Aurélie Kellé, Clémence Prompsy d'être venue sur notre plateau nous donner quelques conseils.
Merci.
Pour
Merci
établir une belle harmonie familiale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Je ne veux pas » aux éditions Au fil de soie. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. On va s'intéresser à un examen que l'on peut être amené à passer lors d'une grossesse. On vous dira tout sur l'amniosynthèse. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de l'amniosynthèse. Savez-vous à quoi sert cet examen que l'on peut avoir à subir durant une grossesse? Comment cela se déroule? Quels sont les risques? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
L'amniosynthèse, je ne sais pas ce que c'est. Amnio, je sais pas, ça me fait penser amnésie ou je sais pas, genre l'esprit, enfin je sais pas, de plus se rappeler des choses. Ou...
Quelque chose qui est lié à la femme quand elle est enceinte.
C'est un test plutôt pour les femmes enceintes, pour vérifier si le bébé a la trisomie 21 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
Je pense tout ce qui est lié à l'autisme, des malformations, des choses dans ce genre-là.
Dans certains cas, je me demande s'il n'y a pas aussi une piqûre ou quelque chose à prélever pour vérifier, qu'il y a un truc dans le genre. Après les 3 mois, et je dirais peut-être 5 mois.
Bah non, c'est pas fiable, parce que tant que le bébé est pas sorti, on peut pas savoir s'il est en bonne santé.
Ça doit pas être fiable du coup à 100%, comme la plupart des examens à partir de cette période.
Jimmy, alors reprenons du début. D'abord, c'est quoi précisément une amniosynthèse ?
Alors, lorsque vous attendez un bébé, le bébé flotte dans un liquide rempli d'eau, ce qu'on appelle le liquide amniotique. Il est dans une petite poche. Ce liquide, il est stérile. Il est essentiellement fait, comme j'ai dit, d'eau, mais aussi de sels minéraux. Mm-hmm. Il contient notamment des cellules fœtales. Et l'amniosynthèse, ça consiste à prélever une petite partie de ce liquide dans lequel baigne le fœtus au cours de la grossesse. On fait ça à l'aide d'une petite aiguille qui est très fine. Elle est reliée à une petite seringue à travers la paroi de l'abdomen de la mère. Ça dure à peine 10 minutes. C'est fait par un médecin guidé par une échographie pour être sûr qu'on est en bon endroit. C'est très peu douloureux. La douleur est comparable à celle d'une prise de sang. Mmh. On ne fait aucune anesthésie.
Ça fait peur comme ça, mais ce n'est pas si douloureux.
Et là, on ne fait aucune anesthésie, même locale. Ça ne sert strictement à rien.
Alors, à quoi ça sert cet examen? Pourquoi on peut être amené à passer justement une amniosynthèse?
Eh ben, ce liquide amniotique, justement, contient des cellules fœtales qui peuvent être ensuite analysées au laboratoire. Ça permet de réaliser ce qu'on appelle notamment un karyotype. Lorsqu'on recherche des anomalies chromosomiques, notamment lorsque la plus connue, c'est celle de la trisomie 21. Mais aussi, on peut rechercher d'autres choses au niveau des gènes, notamment les gènes responsables de la mucoviscidose, du syndrome de l'X fragile, qui est une maladie génétique, notamment qui entraîne un déficit intellectuel. Et puis aussi, on peut retrouver des bactéries ou des parasites. On a parlé de la toxoplasmose. Le diagnostic de certitude se fait par amniosynthèse. Et donc, on peut détecter plein de maladies, de pathologies lorsqu'il y a un pronostic vital pour l'enfant à naître. Et évidemment, ce n'est pas un dépistage qu'on propose à tout le monde,
non,
et qui permet de dépister toutes les maladies.
Mais on fait ça à quel moment de la grossesse en général? J'imagine qu'il y a plusieurs fenêtres.
Exactement.
On fait quand?
Généralement, le programme entre 3 mois et 3 mois et demi de grossesse, c'est-à-dire entre la 15e et la 17e semaine d'aménorrhée. Et on peut faire cet examen jusqu'au terme de la grossesse, à partir du moment où on suspecte une pathologie grave pour l'enfant qui est à naître, eh ben on peut faire ce geste.
Alors, se faire planter, entre guillemets, une aiguille dans le ventre, ça peut faire très peur comme ça. Est-ce qu'il y a des risques, justement, avec cet examen, quand même?
Alors, ils sont très, très minimes. Évidemment, il y en a toujours. Le principal, c'est celui de la fausse couche. Heureusement, c'est rarissime, mais même quand ça arrive, c'est dramatique.
C'est
moins de 0,5% des cas. Et ça survient dans les 8 à 10 jours qui suivent la myosynthèse. On fait ça dans des conditions de sécurité assez importantes. On désinfecte correctement, c'est du matériel stérile, des médecins qui ont l'habitude de faire l'examen. De très rares cas d'infection à la suite de cette ponction arrivent. Mais le risque principal, c'est la fausse couche. On a dit, c'est 0,5% des cas.
C'est pour ça qu'il faut très rapidement, Jimmy, pour terminer, prendre quelques précautions après. Hein.
Il faut se reposer. Oui, dans l'après-midi, il faut rentrer, se reposer. Ouais. On évite de travailler dans la foulée. Pas d'arrêt de travail en revanche. Et puis une activité normale dans les jours qui suivent. Il n'y a pas lieu de faire de surveillance particulière. Néanmoins, si vous avez des contractions, des saignements ou des douleurs abdominales, il convient de consulter en urgence.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car c'est la chronique sexo. Après, aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des éjaculations nocturnes qui peuvent perturber les nuits de certains hommes. Elle nous expliquera pourquoi. Mais d'abord, un peu de musique sur Europe 1. Je vous propose d'écouter Néa. De son vrai nom, la chanteuse suédoise s'appelle Linnea Sodal. Ça s'appelle Some Say.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui est en train de se foutre de moi.
Non,
parce
mais
que
votre présentation était oui, d'amour inconditionnel.
Mais on passe à la chronique sexo après
c'est
tout,
vrai.
On peut.
Hein,
c'était
logique, c'était une belle entrée en matière. Merci
exactement.
Catherine, on vous a entendu, donc vous êtes là avec nous dans ce studio. Je rappelle, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous retrouver.
Bonjour Catherine.
C'était une belle entrée en matière, non?
Mais vous, formidable, hein, parlons de musique, désir, parlons d'amour.
C'est ça, vous êtes là pour ça.
Voilà, exactement.
Très bien. Alors je vais vous dire. La réponse. On va répondre à la
je
question.
Je sais parler d'autre chose, mais j'adore ce sujet.
Très bien. Mais aujourd'hui, on va pas parler tout à fait de ça, puisqu'on va parler, on va répondre donc à la question d'Alexis. Alexis, il a 27 ans, je vais vous la lire. Une question un peu particulière. Alors, il nous dit donc, Alexis, depuis quelques temps, il m'arrive d'avoir des éjaculations nocturnes. Cela arrive toujours lors d'un rêve érotique, après tout, c'est une question de désir. Comment l'expliquer, Catherine? D'abord, est-ce que c'est très fréquent, ce type de problème d'éjaculation nocturne? Certains parlent de pollution nocturne.
Oui, c'était ce qu'on disait pudiquement, effectivement. D'ailleurs, ouais. Pollution, on disait long sur la accueil quand on avait de la sexualité, comme si c'était quelque chose de sale. Donc, évidemment que ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent principalement chez les jeunes gens parce que
il
justement...
Il a 27 ans, hein, il est jeune, ouais, effectivement.
Mais même chez les hommes adultes, dans la mesure où, de toute façon, un homme, dans sa nuit, connaît des moments d'érection assez importants, qui est un relâchement musculaire, donc des petits muscles qui sont dans les vaisseaux qui permettent, du coup, une érection à ce moment-là, puisque c'est le sang va être gardé prisonnier dans la verge, et du coup, ça va entraîner une érection qui, si elle va jusqu'au bout, si l'homme n'est pas réveillé, ou si elle s'est accompagnée, pourquoi pas, d'un rêve érotique. D'ailleurs, on croit souvent que c'est le rêve érotique qui est à l'origine de l'érection.
Et pas toujours.
Alors que c'est souvent l'érection qui amène la fabrication du rêve érotique. C'est plutôt, souvent
c'est plutôt
l'inverse qui se produit.
Jimmy ?
Moi, je pensais que ça touchait les petits ados prépubères, un peu excités par des catalogues à l'époque. Non, c'est plus des catalogues, ils vont autre chose.
Il n'y a plus que la redoute. Ouais, il y a eu la redoute, mais...
Mais que, du coup, ça touchait plutôt les adolescents de 15-16 ans et pas forcément les hommes de 27 ans. Est-ce que, je ne sais pas, à 50 ans, on peut avoir... Ou même oui. À 60, est-ce qu'il y a un âge à partir du moment où ça s'arrête
hein. Alors, en général, effectivement, c'est vrai que ce sont plutôt les ados, tout simplement parce que c'est un sujet de questionnement extrêmement intense. Et comme ils n'arrivent pas à le trouver, à l'aboutir dans le réel de leur quotidien, eh bien, dans la nuit, leur pudeur étant en berne, eh bien, tout d'un coup, tout s'exprime un peu plus fortement. Et du coup, c'est en effet là où ils connaissent leurs premières éjaculations. C'est souvent cette surprise, indépendamment de leur contrôle, qu'ils vont après réitérer au travers d'une masturbation qui leur fera retrouver cette éjaculation. Mais chez l'homme adulte, cela arrive aussi. Alors, il y a deux catégories. La catégorie des hommes qui sont aussi en difficulté avec la sexualité. Et donc, c'est ce refoulement très fort qui fait que, du coup, ça leur échappe.
J'allais vous dire, c'est pas un problème de frustration un peu dans la vie réelle, sexuelle, finalement, et qu'il la nuit, tout se lâche.
Alors, ça peut être de frustration par frustration de vie sexuelle, mais pas tellement parce qu'il y a de l'abstinence. C'est de frustration dans le rapport à soi et la sexualité. Ben, c'est pas parce qu'on ferait pas l'amour qu'on se met à éjaculer n'importe quand.
D'accord.
Vous voyez, c'est pas du tout ça. Un homme, c'est pas non plus parce que à force de ne pas faire l'amour, il y aurait une réserve de spermatozoïdes qui n'attendrait qu'une chose, c'est à sortir, ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle s'élimine automatiquement, même s'il n'y a pas d'éjaculation par le biais de la vessie. Donc, de toute façon, ça n'est pas du tout dû à ça. C'est simplement une difficulté parfois à s'approprier son corps et sa sexualité. C'est pour ça que, pas que dans la nuit, il y a des hommes qui, dans la journée, connaissent des érections indépendamment d'un éveil érotisé par une relation, et même
même allant jusqu'à une éjaculation, ce qui a plutôt tendance à les inquiéter parce qu'ils ont le sentiment de perdre la maîtrise d'eux-mêmes.
Jimmy ?
Mais là, Alexis n'a pas l'air très perturbé par ce qui lui arrive, mais est-ce que ça peut être un problème ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce phénomène si ça devient assez récurrent ?
Alors, s'inquiéter, non. Simplement, ça pose la question de quelle est la sexualité par ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas du tout problématique d'avoir une sexualité qui... Alors, d'abord, un corps qui se met en route et qui check que tout va bien, une érection qui se fait et qui va jusqu'à l'éjaculation, peut-être d'ailleurs avec un support érotisé, d'un rêve érotique. D'ailleurs, il y a la même chose chez les femmes. Hein,
J'allais vous le demander, est-ce que c'est quelque chose d'uniquement masculin ? Alors, certes, il n'y a pas d'éjaculation chez les femmes, mais il peut y avoir des orgasmes nocturnes
en
dormant. Hein,
bien sûr, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sans masturbation. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que c'est rejoint par l'éveil érotique, par le rêve érotique qui raconte toute une petite histoire dans lequel, dans le film qui est dans la tête, il y a des corps qui se touchent ou des corps qui sont touchés qui amènent à cette éjaculation ou à cet orgasme féminin. Donc c'est vrai qu'on retrouve ça chez les hommes et chez les femmes et ça n'est pas un problème. Après, ce qui est un problème, c'est à partir du moment où il y a un décalage total entre la tranquillité et la sérénité que nous avons dans notre vie érotique, dans notre façon de faire l'amour, dans notre liberté de le faire, et dans la capacité aussi à le refouler si ce n'est pas le moment. Et tout d'un coup, des moments où le corps ne répond, a le sentiment d'être... Enfin, la personne a le sentiment que son corps réagit tout seul, part tout seul, en vrille, l'oblige à vivre des choses que, pour X raisons, de culpabilité, d'interdit, on ne peut pas vivre dans son quotidien. Et c'est là que c'est ce décalage, c'est-à-dire une sorte de sentiment de culpabilité par rapport au sexuel qui émerge envers et contre tout, qui est perçu comme étant une source d'anxiété.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Demain dans Sans Rendez-vous, on va parler de sécurité alimentaire. Alors que le salon de l'agriculture vient de commencer, on vous dira tout sur les bonnes règles à respecter chez vous pour ne pas tomber malade en cuisinant ou en conservant mal vos aliments. Tout ça, ce sera demain à partir de 15h. Mais pour le moment, je cède la place à l'équipe sauvage de Mathieu Noël.